Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Ormé. Juste cette semaine au podcast, je vais recevoir comme co-animateur Mathieu Proulx, bien sûr, collègue ici, ma mère. Et le voici, il est là. Il est déjà là, il est déjà prêt. Et on va aller rejoindre également à Tampa via Skype Anthony Auclair. Malheureusement, les Buccaneers de Tampa Bay qui se sont inclinés par la marque de 27-23 face aux Titans du Tennessee dimanche après-midi. Et après ça, on va revenir également sur cette défaite des Alouettes. C'est un match qui voulait rien dire au classement. Du côté des Alouettes. On va faire notre tour d'horizon de la dernière semaine d'activité du côté de la Ligue canadienne de football. Et ensuite de ça, on va retourner à la NFL. Il y a eu de bons matchs, d'excellentes performances, une autre excellente performance à part d'Aaron Rodgers. Ça se passait dimanche soir au Arrowhead Stadium face aux Chiefs à Kansas City. Alors, on a mis la table. Et bien maintenant, le podcast Sac du Cœur commence à l'instant. Alors, on va aller rejoindre Anthony Auclair. Anthony, malheureusement, ça a été une défaite pour vous face aux Titans du Tennessee. Mais encore une fois, vous avez été dans le coup, une défaite par la marque de 27-23 seulement. À quel point ça a été difficile à avaler ce revers?
Ah, c'est tough, man. C'est tough. Surtout qu'on sait qu'on se bat nous-mêmes, on fait des erreurs, on crée des revirements. C'est difficile. Puis après ça, on est quand même dans le match. C'est ça le pire, c'est qu'on est quand même dans le match. On a une chance à la fin de gagner. Puis on l'a juste échappé, là.
Tu parles de revirement, Anthony. C'est clair que c'est le genre d'affaire qui fait très mal à une équipe. C'est ce qui vous est arrivé en carrière. Qu'est-ce que votre équipe fait pour essayer de corriger la situation? Est-ce que c'est adressé devant toute l'équipe ou est-ce que c'est quelque chose qui était adressé individuellement envers certains individus peut-être qui sont fautifs?
Non, c'est clairement adressé devant toute l'équipe. C'est un problème qu'on a depuis certaines semaines. Puis c'est quelque chose qu'il faut régler. Il y a eu beaucoup de ces revirements-là que ça a été créé parce que c'était des erreurs mentales de certains receveurs, mettons, qui ont manqué un ajustement sur un tracé que Jamie se pensait qu'il allait faire. Puis que, c'est un manque de communication entre les deux, des choses comme ça. Donc, pardonnez-moi, j'ai perdu ma caméra.
Oui, pas de problème.
Mais c'est des choses qui arrivent, puis je pense que c'est des choses qu'il faut corriger immédiatement, en fait, là.
Ouais, puis tu peux juste ajuster ta caméra un peu plus vers le haut.
Oui, on voit la bouche, on voit tes beaux yeux, Anthony.
Ouais,
tes
exact,
yeux, là. Tes yeux.
Ouais,
c'est bon, ça, c'est parfait, parfait, on va bien.
Ouais, ça, c'est mieux.
Excuse-moi, Didier.
Vas-y.
Ouais, je vois tes beaux yeux, Anthony. Écoute, c'est clair que Bruce Arians a été amené pour relancer Jameis Winston. Je pense que Didier t'en a parlé. C'est le sujet tout le temps. Le carrière prend tout le temps la place dans toutes les discussions autour du football. On le sait, là, c'est la position la plus importante. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu vois une bonne relation? Ce qui est intéressant aussi, puisque je t'ai entendu dire sur la dernière phrase, c'est que c'est des receveurs, des fois, qui ne font pas les ajustements. On blâme toujours le corps parce que c'est lui qui a le ballon qui lance, mais c'est pas tout sur lui, là, ces erreurs-là qui se produisent depuis le début de la saison.
C'est sûr. Puis, tu sais, ce qu'on voit, surtout à la télévision, c'est le carrière qui lance la balle dans les mains de la défensive. Mais, tu sais, ce qu'on voit pas, c'est que le receveur manque un ajustement. Mm-hmm. Ce qu'on voit pas, des fois aussi, c'est qu'on manque une protection de passe. Jamie, c'est quelqu'un dans sa face. Donc, il faut qu'il lance en sous-pression. Tu sais, c'est des choses que c'est toute l'équipe qui doit l'aider en ce moment. C'est autant la protection, les receveurs, la défensive. Et la défensive a fait un bon travail hier. On les a mis dans des positions difficiles, puis ils ont quand même réussi à avoir bien performé. Donc, je te dis, c'est un travail d'équipe au complet, puis Jameis, je trouve qu'il est meilleur que l'année passée, c'est sûr. Fait moins d'erreurs, mais maintenant, c'est à nous de step up puis de l'aider.
Oui, vous avez une fiche de 2 victoires et 5 défaites, mais comme on disait tout à l'heure, vous avez été dans tous les matchs. Là, vous allez aller à Seattle pour affronter les Seahawks. Habituellement, c'est difficile de jouer à Seattle, mais là, les Seahawks ont quand même 2 défaites à domicile cette année. Alors là, c'est quoi la mentalité là, de l'équipe? Là? Parce que à 2-5, l'Association nationale, elle est très forte cette année. Donc là, malheureusement, on est à la mi-saison, puis là, les chances de participer en éliminatoire commencent à être réduites. Donc, c'est quoi la mentalité de l'équipe? Qu'est-ce que Bruce Arians vous a dit justement lorsque vous l'avez rencontré aujourd'hui?
Il faut corriger ce qu'on fait de mal présentement. Puis c'est vraiment les erreurs mentales, les revirements, comme je l'ai mentionné. Il faut y aller un jeu à la fois. Puis je pense que si on ne peut pas se dire qu'on va en gagner 9 de suite ou peu importe, il faut y aller vraiment un match à la fois, un jeu à la fois. Puis je pense que ça va être ça la clé en ce moment.
Je sais que tu peux... Ben là, quoi qu'on est loin, là, c'est en France, c'est peut-être que la NFL peut pas te rejoindre ici. Là. Moi, je vais le dire, là, mais l'arbitrage a été très déficient cette année à plusieurs niveaux.
Ah, écoute, on en a parlé là, lorsqu'il y avait le match contre les Saints, son échappée qu'elle a recouvrée, on lui a pas donné. Mais là, hier, en tout cas, explique la bourde.
Ce sont les Saints qui se sont fait voler il y a 3-4 semaines face aux Rams. Hein, ils avaient fait un sac du corps sur Jared Goff. On récupère le ballon, ça va inscrire un toucher, puis finalement, on le sifflait hâtif. Même chose s'est produit hier dans votre match. J'explique la scène pour les gens. On fait une feinte de botté et Kern, le botteur, perd le ballon. Vous récupérez, vous retournez ça pour un toucher, mais on dit que c'est un sifflet hâtif. À quel point c'est démoralisant ou vous êtes démoralisé par ce genre de geste? Est-ce que vous l'avez, encore une fois, est-ce que vous en avez parlé en équipe? Et à quel point c'est décourageant de vivre ça, on dirait, semaine après semaine dans votre cas?
Parce qu'en plus, c'était au quatrième quart, si je ne me trompe pas.
Le match est presque fini.
Là, vous auriez eu l'avance au quatrième quart et vous auriez probablement gagné la rencontre.
Ah, il restait peut-être 2 minutes 50, là, quelque chose comme ça. C'est vraiment difficile, honnêtement. Puis, je veux pas agir comme une victime, mais je trouve que souvent, on est vraiment du mauvais côté de la médaille avec les arbitres, je trouve. Puis, c'est vrai. Si tu regardes le fumble que j'ai recovered contre les Saints, dans cette game-là aussi, on avait un PI offensif sur Mike Thomas qui a fait contre notre Vernon Hargrave. Puis, honnêtement, il l'a vraiment benché, puis ça n'a pas été callé pour le même review, puis on le voit très bien que c'est ce qu'il a fait. Puis mais je sais pas quoi dire. C'est tough parce que tu le vois, tu sais, on a un big screen à toutes les games.
En plus! Stadium,
tu le vois sur le big screen que le fumble là, hier. Puis qu'est-ce que tu veux faire? Il review pas. Puis tu peux pas le review toi non plus. Fait que c'est comme random un peu. Puis je pense que les arbitres sont juste un peu mêlé avec le changement des règlements et des reviews qui se passent en ce moment puis qu'est-ce qu'on essaie d'instaurer dans la ligue. Puis je pense que c'est vraiment... Ils sont juste mêlés en ce moment.
Mais t'as raison. Tu peux pas vraiment rien dire de plus comme joueur parce que c'est décourageant. Exact. Mais pour les partisans, pour les analystes, pour tout le monde qui regarde ça, ça affecte le spectacle en ce moment.
Absolument. On voit à travers la ligue. Souviens-toi, le match, c'est quoi? C'est les Lions de Détroit aux Packers de Green Bay.
Les deux pénalités à la fin contre les Lions.
Deux pénalités qui n'étaient pas des pénalités. Puis ça décide. C'est surtout que ça décide... De la marque finale, de l'équipe qui va gagner le match, comme c'est arrivé durant le match des Bucks. C'est ça qui est vraiment frustrant.
Tu veux pas qu'ils volent le spectacle parce que moi, c'est malheureusement ce qui se produit. C'est une industrie de 15 milliards. Moi, je comprends pas comment ils n'ont pas de la technologie ou une façon
de mettre un système en place.
Un système, puis ajouter des officiels, puis mettez-en un pour chaque joueur à la limite des estrades, puis ils collent. Je sais pas, tu sais, trouver une solution, mais ça n'a pas de bon sens qu'on est encore rendu là, tu sais, que ça semble pas avoir évolué.
C'est que tout le monde dans le stade, tout le monde dans la télévision le voit, tu sais. C'est ça qui est fou en ce moment, puis je sais pas, c'est difficile à vivre un peu comme joueur.
Tu mets tellement d'efforts, tu mets de l'énergie, tu mets ta semaine de préparation, puis finalement, tout ça est décidé par un gars avec un chandail du Foot Locker qui décide que lui, il colle ou non ta pénalité. Non, mais c'est vrai que c'est ça.
Ouais, Anthony, t'es pas obligé de commenter
ça.
Non, ça c'est mon éditorial.
Mais
si t'es en français, je sais pas si c'est quelqu'un dans le bureau de la NFL à New York qui parle français, là, mais juste au cas où.
Embarque-toi
pas là-dedans. Mais bon, sur un plan individuel, on en parlait avant de commencer l'enregistrement, tu nous disais que t'as obtenu plus de temps de jeu qu'à l'habitude en raison de la blessure à votre ailier rapproché partant au O.J. Howard. Donc, sur le plan individuel, comment s'est déroulée ta rencontre hier face aux Titans?
Ça s'est déroulé. Je veux dire que j'ai eu des hauts et des bas. C'est un endroit qui est quand même difficile à jouer. La ligne défensive bouge beaucoup, puis en même temps, il faut que je regarde le ballon pour pas être offside ou quoi que ce soit, puis timer comme il faut. Donc, c'est pas si peu. Ça a bien été un peu, mais je pense que j'aurais pu faire mieux beaucoup.
Ouais. On est autocritique comme joueur, on le sait. Fait que tu peux faire 10 bons jeux, si t'en fais un mauvais, tu vas juste se souvenir de celui-là. Puis c'est tout à ton honneur de vouloir t'améliorer. Mais la date limite des transactions, c'est demain à 16h. Des rumeurs de transactions partout à travers la ligue. Puis un nom qui circule, c'est un de tes coéquipiers très proches, O.J. Howard. On a dit il y a quelques semaines, et ça, c'est Jenna Lane, qui est celle qui couvre pour ESPN les Buccaneers. Ouais. Et elle disait il y a quelques semaines, les Buccaneers avaient dit non, il n'y a aucune question, on ne bouge pas au Jay Howard. Et là, il y a une heure, on dit. Donc, il y a deux semaines, on disait non, c'est impossible. Et là, on nous dit peut-être la seule façon que les Bucs pourraient considérer une transaction, c'est pour une offre substantielle et qu'il y a plusieurs équipes qui sont intéressées. Comment vous vivez ça, vous, à l'intérieur? Pas juste la situation d'O.J. Howard, mais la date limite des transactions. C'est quelque chose qui jase ou vous jasez pas, puis vous êtes comme, garde, si ça arrive, ça arrive, mais on commencera pas à faire des hypothèses de notre côté.
Ah, honnêtement, on n'y pense pas vraiment en tant que joueur. C'est une business qui est tough. Si tu mettais à penser à ça, tu commencerais à te second-guesser tout le temps, puis je pense que c'est pas une chose que tu veux faire. Mais non, pour vrai, on n'en parle pas vraiment. Puis, tu sais, OJ, c'est sûr que de notre côté, on entend les rumeurs et tout ça. Puis, tu sais, je veux pas en parler à OJ. OJ, tu sais, tu.
Ben non.
Mais c'est spécial quand même. Puis, tu sais, c'est difficile d'écouter ça à l'extérieur. Mais en même temps, c'est tout le temps la même chose. Il faut que tu coupes ce qui se passe à l'extérieur de l'équipe. Puis,
coupe le bruit.
Tu restes dans l'équipe.
Oui. Ben écoute, avant qu'on se quitte, il y a un joueur que j'aimerais que tu me parles. Il s'agit de Shaquille Barrett. C'est un joueur qui arrive de nulle part. C'est un ancien membre des Broncos de Denver. Puis là, il est parmi les meneurs au chapitre des sacs du quart du côté de la NFL, à égalité avec un autre joueur avec 10 sacs. Parle-moi de Shaquille Barrett, parce qu'il s'avère être une des belles révélations de la NFL lors de la première moitié de la saison.
C'est drôle que tu me dises ça parce que la semaine passée, il y a un joueur qui disait dans notre équipe, il sort de où, lui? Puis il y a un de ses anciens coéquipiers des Broncos, il disait qu'il était tout le temps dans l'ombre de Von Miller.
DeMarcus Ware qui était là.
Fait que tu sais, c'est dur de shiner quand il y a des joueurs comme ça en avant de toi, mais maintenant il prend sa place, puis c'est à son tour, donc il fait vraiment bien, puis c'est quelqu'un qui. C'est une surprise pour nous cette année, c'est sûr, parce qu'au début. C'était entre lui et Noah Spence qui allait faire l'équipe, en fait. Puis finalement, c'est lui qui l'a fait. Puis ça devait être une bonne décision.
Je pense que c'était la bonne décision de l'organisation. Hey, moi, tu disais que c'était une dernière question. Moi, j'en ai une dernière.
Ah, vas-y,
la semaine passée, tu étais à Québec. On était à Québec ensemble.
Bon,
on
s'est parlé du Rougeard.
Ben, écoute, tu mets deux gars du Rougeard. Tu m'as forcé à poser des questions. Je vais parler du Rougeard. On a battu les Carabins en passant, juste de même.
Hey, j'ai pas de parti pris, moi, dans cette rivalité-là. J'ai pas joué pour aucune des universités en passant.
Tu prends pas pour nous autres, c'est ça? Tu prends pour
non, moi, je suis comme la Suisse. Je me mêle de rien.
Ah, c'est ça. Parfait.
J'ai des amis des deux côtés. J'ai des anciens coéquipiers des deux côtés. Je me mêle pas de ça.
C'est bon, mais tu tueras pour nous autres.
Avant qu'on commence.
Ouais, c'est pas ça qu'il disait, Tony. Hein?
Hey, arrêtez,
il était lui, go Laval, go!
Non, c'est pas vrai.
Hey, mais juste, tu parles de ça parce que justement, on a eu la chance d'être élu sur l'équipe d'étoiles des 25 ans du Rougeard. C'était comment? T'as eu la chance? C'était cool parce que cette semaine de congé, t'as pu venir voir ta famille, ton monde, puis participer à ce match-là. Comment c'était justement cette semaine de congé, puis de revenir à Québec là, pour quelques jours?
Quel addon, pour de vrai, quel addon. À chaque année. Ça tombe que le bye week est pour une game contre les Carabins, donc c'est tout le temps le fun de descendre puis de voir ça. Mais quel addon, puis honnêtement, ça a été du tapotage pas mal parce que nous, on commençait à 8h lundi matin après. Fait qu'il fallait que je prenne un vol à 5h, que j'aille à Orlando, que je me loue un char que t'aimes pas.
Mais non!
Je suis comme à 1h du matin, Tu l'as pas dans le
Hey, moi, je pensais que j'avais fait des gros efforts en partant de Montréal en char, faire un 24 heures à Québec. Chapeau, mon gars.
En plus, on a dû te convaincre d'y aller.
Ouais, tu pas convaincre. Moi, j'étais comme, je vais pas manquer une journée de travail, j'ai des games, tu sais, tout ça. Lui, il part de tel pas, puis il conduit.
Que ça a pris pour se rendre.
Ben, chapeau, en tout cas, félicitations pour ça. C'était cool de te voir, puis c'est amplement mérité.
Félicitations, toi aussi, man.
Yeah, man. Merci. Merci beaucoup.
Bon, ben, parfait. Le Love Fest est maintenant terminé. Bon, écoute, Anthony, merci encore une fois d'avoir pris du temps dans ta journée. Je sais que la journée était occupée au lendemain d'un match. Vous aviez des réunions, ainsi de suite. Puis là, ben, écoute, je vous souhaite la meilleure des chances la semaine prochaine face aux Seahawks à Seattle. Puis nous, on va se reparler dans le cadre du podcast dans deux semaines. Fais attention à toi.
Parfait. Merci les boys.
Merci Anthony. Yes, toi aussi. Toi aussi.
Bon, ben parfait. On va maintenant sourder du côté de la Ligue canadienne, si
parfait,
tu veux bien, Mathieu.
Ben
ouais, tu fais de troupe, toi.
Ouais.
On va parler, bon, du match des Alouettes. Ouais. Se sont inclinés par la marque de 38-26 contre les Tiger Cats de Hamilton. Le match était bien sûr présenté au stade de Percival Motion. D'abord, avant tout, bon, il faut dire que le match n'avait aucun impact sur le classement. Les Tiger Cats sont assurés de terminer au premier rang. Les Alouettes sont assurés au deuxième rang. Peut-être que les deux équipes vont s'affronter dans le cadre de la finale de l'Est, mais ça, c'est encore loin.
C'est loin
comme Vernon Adams n'a pas arrêté de nous rappeler aux membres des médias, chaque fois qu'on lui dit que peut-être son avant-goût de la finale de l'Est, il nous disait non, il faut qu'on y aille un match à la fois. Puis comme tu dis, c'est la philosophie, c'est la mentalité à avoir du côté des Alouettes. Adams a été retiré du match vers la fin de la première demi, mais par contre, il a offert une bonne performance dans l'ensemble. Puis moi, je crois, en tout cas, de mon côté, moi, c'est ce que je voulais voir. Je m'étais dit, s'il ne joue pas toute la rencontre, je veux le voir connaître une solide performance et surtout que du côté des Tiger Cats, contrairement aux Alouettes, du côté de la défense des Alouettes, on était privé des services de Tommy Campbell, Enoch Mouamba, on leur a donné congé pour soigner leur petit bobo en vue des éliminatoires, mais c'est pas le cas du côté des Tiger Cats, Mathieu. On avait toute notre formation partante, autant en attaque qu'en défense, puis Adams a bien fait là, lorsqu'il était dans le match.
Oui, puis tu sais, d'abord, pour les Tiger Cats, je pense que c'était une bonne idée parce que c'est toujours ce fameux débat entre reposer tes joueurs ou les garder en uniforme. forme, garder le rythme ou avoir de la rouille. C'est très difficile à gérer. Puis il reste quand même, il restait deux semaines de saison plus une semaine de congé au Tiger Cats. Il joue seulement un match qui signifie quelque chose le 17 novembre. Donc, je pense que c'était de bonne guerre de faire jouer toute son équipe l'avant-dernier match de la saison. On peut s'attendre à ce qu'en fin de semaine, pas beaucoup de partants jouent pour les Tiger Cats, ce qui va faire en sorte que c'est quand même deux semaines de suite qu'on joue pas.
C'est beaucoup, ouais.
C'était correct là, qu'on joue. Moi, je pense que c'était un bon pari de la part d'Orlando Steinhauer de jouer ses gars, d'avoir un rythme, puis aussi de jouer contre Montréal, d'avoir la chance d'avoir un feeling pour ces joueurs-là. Tu fais des 1 contre 1, mais tu vas avoir une petite idée de qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est bon, de le
quelle
voir
confrontation
en
peut être avantageuse
ouais,
pour
parce
toi.
Que c'est des situations que tu vas revoir, ça. Puis au-delà de la stratégie, juste la situation homme à homme avec un gars, que ce soit sur la ligne à l'attaque et défensive ou la tertiaire et tout ça. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Pour Vernon Adams, pour revenir à lui, bonne performance. Encore une fois, des décisions. Tu sais, ça passe dans le flanc qui aurait pu être intercepté pour un toucher. Ouais. Ça, c'était risqué.
On a vu ça pendant toute la saison.
Ouais,
à
ben
chaque
c'est
match, il y a des passes qu'on dit, mon Dieu, ça a deux doigts d'être intercepté.
Tu vis avec ça. Ouais. Il faut que tu vives avec ça avec Vernon. Il va prendre une ou deux mauvaises décisions dans un match. T'espères qu'il en fait le moins possible, mais il en fait à l'occasion. Il faut vivre avec. Tu veux qu'il les diminue le plus possible, mais dans l'ensemble, tu as raison. Il a complété 11 des 14 passes qu'il a lancées, 142 verges. Après cette presque interception, c'est comme si là, après ça, il s'est mis en marche. Ouais. On a vraiment senti Vernon Adams à son aise. Il est tellement bon dans la pochette. Il est tellement bon pour sentir la pression, se déplacer, puis prolonger
acheter
les jeux.
Temps,
ouais. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'il y a eu un touché à Winneke, puis c'est ce qui a fait qu'il y a eu un touché à Quanbury. Moi, j'ai beaucoup aimé sa performance. C'est rassurant. Puis quand il a quitté le match, les Alouettes mettent 14-6. Puis ça, c'est ce que tu veux voir. T'as ton équipe A, sans quelques joueurs clés, qui réussit à rivaliser au niveau robustesse, les 1 contre 1, tout ça. Donc, une performance qui est quand même encourageante pour les Alouettes.
Non, c'est ce que je pense aussi. On était privé également des services de William Sambach du côté
Devier
d'attaque.
Posey.
Devier Posey n'était pas là. Luc est blessé. Toutefois, Jamar Johnson a connu tout un match. 16 courses bonnes pour 105 verges.
Il est bon,
Jamar. Il est vraiment bon. C'est
un one-two punch intéressant.
Absolument. C'est pour ça que lorsque Sambach est en santé, souviens-toi, au début de l'année, Jamar Johnson était laissé de côté. Son nom était rayé de la formation. On s'est rendu compte du côté du groupe d'entraîneurs, on se doit d'avoir les deux joueurs en uniforme. Monsieur Johnson est tellement un bon joueur et puis il amène beaucoup de choses du côté de l'attaque. Bon, comme on l'a mentionné, Adams a été retiré du match vers la fin de la première demi. Matt Hill, ses statistiques, 12 en 21, complété seulement 57% de ses passes, 142 verges, une passe de tir, une interception. Mais par contre, moi, j'ai aimé la façon qu'il a terminé la première demi. On parle toujours là, de l'attaque des deux minutes à la fin de la première demi. Il a orchestré une séquence qui s'est terminée par un toucher. Les Alouettes ont retraité au vestiaire avec une avance de 21-14. Toi, ça a été quoi ton évaluation de la performance de Shields? Ça a été rempli de haut et de bas toutefois en deuxième demi.
Moi, j'aime bien Matt Shields. J'ai aimé le fait qu'on lui octroie un contrat cet été. On a renouvelé son contrat pour s'assurer d'avoir ses services. C'est un bon second. Tu vois que c'est un bon gars d'équipe.
Oui.
C'est un gars qui mûrit bien dans le système.
Tu sais,
très studieux, très professionnel. Puis tu veux un gars comme ça à côté de Vernon Adams. C'est clair, là, le portrait chez les Alouettes. Vernon Adams est un, puis Matt Shields est deux, puis il est là pour le seconder, l'appuyer. Donc moi, j'aime beaucoup Matt Shields. J'aime ce qu'il apporte. Je trouve que c'est un corps qui te donnera peut-être pas les jeux explosifs, puis tout ça, mais va donner du travail constant. Il est encore jeune. Donc, tu vis avec les hauts et les bas d'un gars qui joue pas beaucoup.
Bon, au moins, qui te donne une chance de gagner. C'est ce qu'on demande toujours du carrière réserviste, carrière numéro 2. Lorsqu'on a joué au BC Place, on aurait dû gagner le match même. Et puis là, face au Tiger Cats, ça a quand même été une performance correcte.
J'ai aucun problème avec la performance de Mathieu. Je trouve qu'il a bien joué dans cette
Mais l'important, c'est qu'on lui donne du temps de jeu. Avant les éliminatoires, je pense qu'il va être sûrement un des carrières les plus occupés vendredi soir à Ottawa face au Rouge et Noir. On va voir quelle sera la stratégie du côté de Carey Jones.
Mais
dans
l'éventualité
qu'il arrive quelque chose à Vernon Adams, il doit être prêt. Ouais, vas-y.
Ouais, t'as raison, je t'ai coupé. Hein. Mais t'as fini ta pensée, c'est bon.
Ouais,
est-ce qu'on peut faire jouer Matt Shields, puis si on en fait jouer un autre, on fait pas jouer Pipkin? Est-ce qu'on peut faire
Hugo
ça?
Richard.
Puis pas juste parce que Hugo Richard, c'est un gars du Rouge et Or, là. Vraiment pas. Là.
Non, t'es sûr. Après, t'as vu avec Anthony, là, je suis pas certain.
Je l'ai tatoué, mais c'est pas ça. L'idée, c'est la chose suivante. T'sais, un, c'est un corps canadien. On veut développer des corps canadiens, il faut leur donner des opportunités. Mais surtout, je te dirais, c'est un vote de non-confiance à Pipkin. Pourquoi Pipkin est encore là? Pourquoi Pipkin fait encore partie de l'organisation? J'ai rien contre le gars, là. Mais il a prouvé qu'il n'était pas la solution, qu'il ne pouvait pas être encore partant dans cette ligue. Pourquoi le conserver? Puis lui, si on donne du temps de jeu à quelqu'un d'autre que Matt Shields, j'espère que c'est Hugo Richard.
J'étais obligé de me faire l'avocat du diable. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit à propos d'Antonio Pipkin. J'en avais parlé, surtout après le match contre les Lions de la Colombie-Britannique. Mon Dieu, t'as juste à faire une faufilade du corps. Même ça, là, tu peux pas faire ça maintenant. Mais la seule chose, c'est que je me mets à la place de Carey Jones, du groupe d'entraîneurs des Alouettes. Puis j'imagine que Hugo Richard va obtenir du temps de jeu à Ottawa vers la fin de la rencontre. En tout cas, c'est ce que j'assume. On verra bien. Mais parce que s'il arrive quelque chose à Vernon Adams, ça veut dire que Shields devient ton partant, puis ça veut dire que Matt Shields est à seulement un coup, finalement, d'être sur les lignes de côté. Puis là, après ça, c'est qui ton prochain carrière?
Gourichard.
Mais Gourichard n'a aucune expérience de la Ligue canadienne. Donc, il faut que tu y ailles avec Antonio Pipkin qu'en tant que carrière numéro 3, c'est cette de l'année, ouais, étant donné que Hugo n'a pas joué du tout durant l'année.
C'est un bon point.
Regarde, comme je te dis, moi aussi, je crois qu'Antonio Pipkin nous a démontré qu'il n'avait pas sa place à titre de carrière partant dans la Ligue canadienne de football. Mais c'est cette de l'année, tu dois y aller avec le joueur le plus expérimenté. L'année prochaine, ce sera une autre histoire. Mm-hmm. Mais pour l'instant, ce sera la chose à faire, mais selon moi. Mais j'espère voir Hugo Richard obtenir du temps de jeu. Je l'ai vu tout au long de la saison, rester après les entraînements, lancer des passes à des receveurs de passes, de faire du travail supplémentaire. Donc, j'espère bien qu'on va le voir obtenir du temps de jeu. Donc, les Alouettes, il n'y a pas eu de blessés. Ça, c'est une bonne chose lors de la dernière rencontre en général. Alors, on va maintenant se tourner sur les autres matchs qui étaient présentés au sein de la Ligue canadienne. Bon, tout d'abord, les Blue Bombers de Winnipeg, ils ont défait les Stampeders de Calgary par la marque de 29-28. Bon, écoute, la première chose qu'il faut que je te parle durant ce match-là, c'est la performance du carrière Zach Collaros. Chris Traveller est blessé. Collaros, que ça fait quoi? On dirait que ça faisait 2 ans qu'on l'avait pas vu. Du moins, on l'avait pas vu obtenir de temps de jeu depuis la première semaine d'activité lorsqu'il avait subi une commotion cérébrale. Et dans cette époque-là, il portait les couleurs des Riders. A connu un bon match, a ramené les Bombers de l'arrière afin de l'emporter par un contre Calgary. Je te pose simplement la question. Si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, qui serait ton carrière partant si les deux sont en santé entre Chris Traveller et Zach Collaros?
Moi, c'est Zach Collaros. Ouais. C'est Zach Collaros, mais je reviens à mon système. Puis c'est drôle parce qu'on a parlé avec Pierre, avec Bruno et David avant le match des Alouettes parce que le match avait lieu la veille. Puis dans le fond, on peut revenir à ce système qu'on avait avec Matt Nichols. Tu as un passeur, puis tu as Chris Traveller comme changement de rythme. Ton système à deux quarts. Puis moi, c'est ça que je continuerai à faire. Dans le fond, j'utilise les deux. Zach Collaros est clairement un meilleur passeur que Chris Traveller. C'est un gars qui connaît bien la Ligue canadienne. J'enlève rien à Chris Traveller pour sa compréhension, mais au niveau de l'exécution, ça marche pas. Mais c'est un fichu d'athlète. Donc c'est une double menace en chair avec Andrew Harris. Fait que moi, j'utilise Zach Collaros comme numéro 1, puis je donne des répétitions à Chris Traveller tout au long du match pour changer le rythme puis amener une autre dynamique. Mais pour moi, c'est Zach Collaros.
Non, j'avoue, c'est une bonne idée. Tu vois, j'avais même pas pensé à ça. Moi, je pensais vraiment qu'il faut qu'un des deux soit le partant. Mais oui, on peut retourner à notre système avec deux carrières qui fonctionnaient très bien. Ça a bien fonctionné l'année passée. Ça fonctionnait bien en début de saison du côté des Bombers. Donc, avec cette défaite-là, ça fait en sorte que les Stampeders, il semble qu'ils ne vont pas terminer au premier rang de la section Ouest parce que les Rough Riders à Saskatchewan, eux, ils ont défait les Eskimos de Edmonton par la marque de 27-24. Ça fait en sorte que les Riders ont maintenant 2 points d'avance sur Calgary en tête de la section Ouest. Donc, tout ce que les Riders ils ont à faire du côté de la Saskatchewan, c'est simple, c'est de récolter un autre point lors de la dernière semaine d'activité. Ils vont recevoir les Eskimos de Edmonton. Donc, un match nul ou une victoire, ça va faire en sorte que les Riders vont être assurés du premier rang. Ou même s'ils perdent et que Calgary s'incline à BC, les Riders vont avoir la première position du côté de l'Ouest et par conséquent, la semaine de congé.
Il n'y a rien qui est joué finalement là-bas.
C'est ça, là, du côté de l'Est, on n'arrête pas de se plaindre. On dit, les trois derniers matchs des Alouettes, c'est plate et il ne se passe rien. Mais là, du côté de l'Ouest, tout doit être encore décidé. Écoute, moi, je veux parler de cette rencontre-là, de la performance du carrière de Trevor Harris. Il a effectué un retour au jeu. Harris a bien fait pour les Eskimos. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Il avait été placé sur la liste des blessés de 6 matchs. Mm-hmm. Moi, c'est ce qui m'intriguait. Je vais voir quel genre de performance il allait offrir parce que ce sont les Eskimos qui vont s'amener au Cypress Hill Motion le 10 novembre contre les Alouettes. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Harris?
Très bonne performance. C'est un bon carrière, pas perdu son rythme. On l'a enlevé de la liste des blessés de 6 semaines parce qu'on veut lui donner le plus de départs possible avant le match éliminatoire. On savait qu'on était classé. On aurait pu décider, pour le plafond salarial, on le laisse sur la liste des blessés pour 6 semaines. On le sort à la fin de la saison. Il dispute un match. Après, ça s'en vient jouer à Montréal. Mais non, on voulait vraiment lui donner le plus de temps possible de jeu alors qu'il sentait qu'il était prêt. J'ai trouvé que ce corps qui a retrouvé son aplomb, sa chimie avec Greg Ellingson clairement présente. C'est un bon groupe de receveurs, c'est une bonne ligne à l'attaque. C'est une attaque qui peut causer des problèmes à beaucoup d'unités défensives. Trevor Harris, par contre, la réputation d'être un corps qui, dans les grands moments, ne se présente pas. Mais Trevor Harris, pour moi, avait l'air très bon dans cette rencontre.
Oui, il a complété 73% de ses passes contre la Saskatchewan pour 321 verges, une passe de toucher, 2 interceptions. Alors, cette semaine, ça va lui donner une autre opportunité également là, d'enlever la rouille à l'approche des éliminatoires. Bon, dans le dernier match qui était présenté, je dis le dernier match, c'est que je l'ai sauté parce que c'est un match qui ne voulait vraiment rien dire. Toronto affrontait Ottawa. Ah, victoire de Toronto, 39-9. Écoute, on va pas s'étirer bien longtemps sur ce match-là, mais c'est une 10e défaite de suite, Mathieu, pour Ottawa. 10 défaites de suite. Il va y avoir des changements. Tu ne peux pas terminer la saison avec 10 défaites consécutives. On va voir ce qui va arriver contre les Alouettes. Mais si on s'incline, on va terminer avec 11 défaites de suite. Ottawa n'a pas gagné un match depuis le mois de juillet. On s'en va au mois de novembre.
Oui, je comprends ça. C'est intéressant. Mais qu'est-ce que tu veux faire comme changement? Moi, je ne vois pas Marcel Desjardins quitter. C'est pas une mauvaise année depuis le retour de la concession. On peut quand même dire que le rouge et noir a été solide. Là, on s'est présenté à la Coupe Grey de notre première année. Ouais. De deuxième année, on a gagné la Coupe Grey. C'est une équipe qui était bonne jusqu'à cette année où tout s'est écroulé. On a peut-être mal visé avec Trevor Harris, tous les départs qu'on a eu en attaque, notre coordinateur offensif. Je pense pas que Rick Campbell n'est tout d'un coup pas un bon entraîneur. Je pense qu'il est peut-être pas bien entouré. Je pense que là, il faut avoir des nouveaux coordinateurs offensifs.
Moi, c'est plus du côté du groupe d'entraîneurs, plutôt que la direction que
oui,
je regarde.
C'est ça.
Là,
parce moi, que... je pars d'en haut. Là, je pense que Marcel devrait demeurer en poste. Je pense que Rick Campbell devrait demeurer en poste. Puis après ça, je pense que là, les coordinateurs pourraient changer. Moi, Rick Campbell, c'est un bon coach. C'est un coach qui connaît bien l'organisation. Il travaille bien avec Marcel. Donc, je considère qu'il mérite au moins d'avoir une autre année. Mais après ça, il faut que tu changes tes adjoints.
Ben, surtout du côté de l'attaque. Oui. Parce que c'est sûr que ça n'a pas aidé le départ de Jamie Alessandro pour la XFL très tard durant la saison morte. Ensuite de ça, on a nommé, deux co-coordonnateurs.
Oui, Winston October, puis après ça, on a eu Joe Pauper.
Oui, ça. Puis depuis que Pauper est là, je pense que l'attaque a même régressé. Ouais. C'est même pire qu'avant. Je veux dire, rien envers Joe Pauper, mais,
il
est passé date. Oui, c'est ça, complètement. Donc, surtout du côté de l'attaque, moi, ça serait ma priorité afin de développer Dominic Davis ou d'amener une autre carrière, peut-être. Je sais pas. Mais chose certaine, il va y avoir des changements d'une façon ou d'une autre.
Il faut.
Du côté d'Ottawa, ça n'a pas le choix. Ouais, 10 défaites de suite, là, ça n'a aucun bon sens. Ben écoute, on a fait le tour du côté de la Ligue canadienne de football. On va maintenant y aller du côté de la NFL. Bon, on en a parlé avec Anthony Auclair tout à l'heure, cette défaite des Buccaneers contre les Titans du Tennessee. Mais bien sûr, il y avait d'autres matchs présentés à travers la NFL. Tout d'abord, les Seahawks de Seattle, eux, ils ont défait les Falcons d'Atlanta. Le match avait lieu à Atlanta. Alors, c'est une autre défaite pour les Falcons. Il faut dire qu'ils étaient privés des services de
Matt Ryan,
exactement. Alors, c'était Matt Schaub qui était carrière. Puis Matt Schaub, il a pas mal fait. Moi, je m'attendais au pire. Je me disais, il va avoir au moins une interception retournée pour un toucher. Ça a été sa marque de commerce plutôt au cours de sa carrière. Mais il a connu un bon match finalement.
460 verges par la voie des airs. Mais on lui a demandé de lancer le ballon 52 fois. C'est pas... Le problème dans ce match-là, c'est que c'était 24-0 à la mi-temps. Donc, mais Matchup n'a pas mal paru.
Ça, c'est la marque de commerce des Falcons cette année.
Oui,
les matchs sont tout en finale à la mi-temps, puis on va chercher les calories vides en deuxième demi.
Exact. Puis on s'est éloigné du jeu au sol. On a 17 courses contre 52 passes. Ça ne marche pas dans ce temps-là. Tu ne pourras pas gagner de match. Tu ne peux pas mettre le match dans les mains de Matchup, malgré le fait qu'il n'a pas été mauvais. Mais au final, les Seahawks, vraiment, c'est une machine bien rodée. Russell Wilson qui fait encore de l'excellent boulot, clairement un des candidats au titre de joueur par excellence de la NFL. Les Seahawks présentent un dossier de 6-2. La défense, par contre, avec ces statistiques-là, j'aime pas vraiment ça. Je serais pas très confiant. Mais en même temps, c'est une autre victoire et c'est ce qui compte.
Oui, non, c'est ça. Écoute, Russell Wilson, c'est un 8e match de suite sur des terrains adverses au cours duquel il complète au moins une passe de toucher sans être victime d'interception. Ouais. Ça, c'est un record.
Ouais.
C'est un record de la NFL. Les deux défaites des Seahawks, ça a été à domicile, je le mentionnais tout à l'heure, sont pas aussi intimidants à domicile, mais sont invaincus sur les terrains adverses. Alors, la mauvaise saison du côté de l'Atlanta se poursuit. Là, je pense, on en a parlé déjà. Mm-hmm. C'est une question de temps là, avant que Dan Quinn perde son emploi, sûrement à la fin de la saison. De toute façon, on n'est pas obligé d'en parler en long, en large de ce match-là.
Mais Arthur Blank a dit qu'il réviserait l'ensemble de l'équipe pendant la semaine de congé. Ils sont en semaine de congé là.
Donc,
s'il y a un move à faire pendant la saison, c'est là. Sinon, ça va aller à la fin de la saison.
Oui, on va voir ce qui va arriver également. La date limite des transactions et des rumeurs comme quoi que ça me ferait un peu. Vic Beasley serait sur le marché des transactions. Mais quelle équipe va compléter une transaction pour Vic Beasley?
Ben
il ne produit pas.
À moins que tu aies un choix de 7e ronde, peut-être.
Ben c'est ça. Là. Je veux dire, il ne produit absolument pas depuis 3 ans. Alors, personnellement, moi, je n'aurais pas d'intérêt à aller chercher Vic Beasley.
Qu'un changement d'adresse. Il y a des fois, il y a des joueurs qui ont un changement d'adresse, leur fait du bien. Puis, tu as raison. Là, si tu l'obtiens, c'est parce que tu ne donnes pas grand-chose en retour.
Ouais, non, mais avec la saison qu'ils connaissent, il faudrait vraiment qu'ils se mettent en mode vente de feu.
Oui, oui.
Dans mesure du possible, afin d'emmagasiner des choix au repêchage. Maintenant, à Buffalo, les Bills, ils recevaient les Eagles de Philadelphie. C'était une belle victoire de la part des Eagles par la marque de 31-13 contre les Bills. Moi, j'avais hâte de voir ce match-là parce que je veux dire, OK, quelles sont les forces des Bills? OK, la défense, mais en attaque, on est très unidimensionnel. Josh Allen n'est pas un carrière, un passeur constant. Notre force, c'est le jeu au sol. Mais ça, c'est également la force de la défense des Eagles. Si tu veux battre les Eagles, c'est simple. Tu dois mettre le ballon dans les airs. On en a parlé depuis le début de la saison à quel point la tertiaire de Philadelphie, bon, manque, il y a un manque de talent. On est décimé par les blessures. Ça, c'est une autre équipe à surveiller à la date limite des transactions. Ouais. Ça, on va compléter une transaction afin d'amener un demi-coin. Donc, je trouvais que c'est pas un bon match-up, si tu me permets l'expression, pour les Bills de Buffalo, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Les Eagles se sont présentés, ils ont mis fin à leur séquence de défaites. Ça a été une belle performance de Philadelphie. Gros match à part de Jordan Howard au sol, et également de Miles Sanders, la recrue, l'ancien de Penn State, qui nous a démontré toute sa rapidité sur son toucher. Donc, est-ce que les Eagles sont en train de se replacer avec cette victoire-là? Puis est-ce que ça sème un doute en toi du côté des Bills, cette défaite?
Ben écoute, je pense que tu as bien résumé la situation. Les Bills, c'est pas une attaque explosive. On n'a pas ça. On a du jeu au sol. Là, quand on arrête le jeu au sol, tu mets le match sur le bras de Josh Allen. Puis Josh Allen doit, à la limite, être parfait. Là. C'est dans le sens où il peut pas commettre de revirement. Il peut pas échapper le ballon comme il a fait hier, malheureusement. Puis quand il fait ça, ben là, tu peux pas jouer de l'arrière. Et c'est ce qui se produit. Donc, Josh Allen, c'est un bon athlète. C'est un beau projet. Je pense que peut-être dans quelques années... en fait, ça va prendre quelques années pour avoir une évaluation juste, je pense, de lui.
Ouais. Ça sera jamais un grand passeur. Je pense que ça sera
un grand passeur, mais ça peut être encore efficace. Puis, tu sais, si tu bâtis une équipe comme on semble vouloir bâtir, donc bâtir sur une unité défensive, bon jeu au sol, corps mobile, bras canon, tu sais, tu peux faire des choses avec ça. Donc c'est pour ça que je dis que peut-être que quand on va bâtir l'équipe qu'on a besoin sur mesure pour Josh Allen, on évaluera à ce moment-là. Pour les Eagles, on revenait de deux revers cuisants là, face aux Vikings et aux Cowboys, si je me trompe pas. Et puis, c'était le fun de voir qu'on établit l'attaque au sol. Ça faisait face à une bonne... Les Bills ont une bonne défense. Ouais. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire le contraire. Une excellente défense, une bonne ligne défensive, des secondaires très actifs, notamment Tremaine Edmonds. Tremaine ou Terrell, je me trompe toujours entre les deux.
Tremaine, il me semble. Tremaine, attends, je vais regarder pendant que tu nous jases ça.
Et donc, on a eu 218 verges au sol. Puis, Miles Sanders, tu l'as dit, c'est une bombe sur deux pattes très, très vite. Quand il a franchi la ligne dans engagement pour débuter la deuxième demi avec sa course de 65 verges, on l'a vu. Puis pour moi, ça a été le point tournant du match. Puis après ça, on a joué du football de rattrapage. C'était très difficile. Belle performance des Eagles, mais je suis pas encore convaincu avec ce qu'ils ont vécu depuis le début de la saison. Il semble avoir de la bisbille dans le vestiaire également. Pas nécessairement le vote de confiance de tout le monde, Carson Wentz, semble-t-il. Et pour les Bills, ben on va voir ce qui va se produire dans les semaines à venir. Mais non, à 5-2, c'est un beau début de saison, une belle surprise, mais je pense qu'on va revenir sur terre assez vite.
Oui, non, c'est ça, je pense aussi. Toutefois, leur calendrier n'est pas très difficile. Ils font partie de la même session que les Patriots, donc ça veut dire qu'on va affronter les Dolphins
les Jets.
Encore une fois, les Jets. Ouais. Donc ça nous donne des victoires faciles. Donc Buffalo facilement pourrait participer aux éliminatoires. Une fois en éliminatoire, là, ça va être autre chose. Exactement, surtout lorsqu'on a une carrière qui n'est pas nécessairement un bon passeur, ça devient beaucoup plus difficile pour le cacher au sein de la formation. Match qui était un match bizarre, là. Okay? Les Chargers qui visitaient les Bears à Chicago. Mon Dieu, l'attaque des Bears, Mathieu. OK, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment pitoyable.
Ouais.
Matt Nagy était supposé être un génie en attaque. Puis bon, l'année passée, ça a bien été, mais cette année, là, c'est vraiment le jour et la nuit. Bon, on va commencer par la fin. Les dieux du football ont puni Matt Nagy. Puis ça, je regardais la fin de la rencontre. Puis Matt Nagy a décidé là, d'être très conservateur, okay, de mettre le genou au sol. Une fois qu'on s'est retrouvé avec une tentative de placement de 41 verges, il restait une quarantaine de secondes. Donc, on aurait pu courir avec David Montgomery, qui a finalement connu un bon match au sol. Puis là, il s'est dit non, ça c'est suffisant. On va y aller, on va envoyer un deep in arrow, tenter une tentative de placement de 41 verges. Puis dès qu'il a fait ça, je me suis dit, OK, il va rater la tentative de placement. Les football gods, les dieux de football vont punir Matt Nagy à chaque fois qu'on entraîneur, de toute façon, on dirait que ça revient l'hanté. Pourquoi pas courir, aller gagner 5 verges de plus? Okay, tu as vu la façon qu'il a raté le placement? Si, au lieu d'être une tentative de placement de 41 verges, c'en est une de 36 verges, les Bears gagnent probablement le match. Je sais que c'est pas la raison pour laquelle ils ont perdu le match, parce que ça commence avec le carrière, Mitchell Trubisky, qui a été vraiment atroce pendant la majorité de la rencontre. Mais toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette décision-là là, de la part de Nagy?
Mais d'abord, il a été très défensif devant les médias. Je ne sais pas si tu as vu ses réponses. Ah, il n'a pas aimé qu'on lui pose des questions sur ça.
Ouais. Mais en même temps, dans ses réponses, il nous avoue qu'il n'a pas confiance en Trubisky.
Ben,
puisqu'il disait,
ben
là, qu'est-ce que vous m'aviez dit si on avait échappé le ballon, si on a été victime d'une interception? Ben, c'est ça le problème des Bears. C'est que là, même au niveau du coaching, il faut que tu coaches en disant, OK, comment,
en dépit
quelle de décision je dois prendre, c'est ça, puis que Mitchell ne va pas nous faire perdre de match.
C'est là où, tu sais, j'ai... puis pour être honnête, il faudrait que je regarde l'ensemble du match. J'ai pas regardé au complet. J'ai regardé certains moments du match. J'ai vu quelques passes absolument atroces de Mitch Trubisky, où notamment, je pense, à un moment donné, t'avais Anthony Miller. T'avais Anthony Miller contre un secondaire, Thomas Davis. Et t'avais la confrontation que tu voulais. Donc, le système a été fait comme il faut. On a réussi à avoir notre confrontation avantageuse. Anthony Miller bat Thomas Davis. Puis Mitch Trubisky lance sur 15 verges trop loin. Pas deux verges, là. 15 verges trop loin. Tu sais, à un moment donné, t'as beau sélectionner les meilleurs juges, t'as pas encore à l'exécuter. Tout ça pour revenir à la décision qu'effectivement, c'est un vote de non-confiance à Mitch Trubisky. Puis je peux comprendre maintenant, Guy. On dit, pourquoi tu cours pas? Ben, il dit, tout le monde sait que je vais courir. Fait que si je cours, je risque de perdre 2-3 verges de plus. Alors pourquoi je ferais ça? Il décide d'y aller avec cette décision-là. Il a pas aimé qu'on questionne sa décision. Au final, ça lui a fait très mal. On perd le match à cause de ça. Mais ce que j'en retire, c'est justement ça. C'est qu'on n'a pas confiance en Mitch Trubisky. Puis moi, j'aurais eu tendance, mais c'est sûr qu'après coup, c'est toujours plus facile à évaluer, mais j'aurais couru. Tu l'as dit, on a eu du succès avec David Montgomery.
Oui.
Cours à la limite, tu sais, cours en plein cœur de la ligne d'engagement, under center, t'es pas obligé d'être en shotgun, mets-toi directement derrière le centre, puis donne-y un dive ou quelque chose de très agressif, comme ça, si au pire, il va pas chercher 5-6 verges, ben il en perdra pas, il va en prendre une ou deux. Moi, j'aurais au moins essayé de courir, puis il a pas voulu faire ça, donc...
Écoute, 27 courses, 135 verges, ben oui. Moins de 5 verges par course pour David Montgomery.
Ouais.
Alors, puis en plus, on a dominé au niveau du temps de possession, là.
Ouais.
OK, on a eu le ballon pendant 38 minutes, 36 minutes, si je me souviens bien, du côté des Bears. Ce qui veut dire que la défense des Chargers était fatiguée. OK, elle a passé la majorité de la rencontre sur le terrain. Donc non, la stratégie, c'était de courir. Tu veux jamais... tu sais, c'est une chose d'être en field goal range, comme on dit. Mais c'en est une autre, là, d'être à une distance où ce que tu sais, le botté va être réussi.
Ouais.
Je sais, c'est 41 verges, j'ai supposé réussir. Mais si tu peux lui donner un botté de 35 verges, tu mets les chances de ton côté. Puis l'autre chose qui a coulé le navire des Bears, 5 présences dans le red zone, près de la zone début, aucun touché.
Ouch.
Aucun touché en 5
présences. Ça, regarde ton carrière.
Ben oui, c'est ça, ça commence avec le carrière.
Puis, et là, cette défaite-là fait très, très mal. Parce qu'à 3 et 4 au lieu de 4-3, t'es
surtout
dans la même section
la
que les Vikings puis les Packers. Oublie ça, là.
Ouais.
Oublie ça.
Ouais. Non,
c'est
non,
dommage,
non.
Là, mais t'es à 7 matchs de jouer dans la saison, puis t'es probablement déjà terminé.
Ouais. Non, non, absolument. Puis on n'a vu aucune progression de la part de Trubisky. Si on retourne à la première semaine d'activité jusqu'à maintenant, c'est pas mal la même chose qu'on voit en termes de performance de sa part. Maintenant, bon, là, il y a les Giants de New York qui affrontaient les Lions de Détroit. Alors ça a été un match qui a été serré. Plus que moi, je l'anticipais. J'avais hâte de voir quel genre de performance les Lions allaient nous offrir. Finalement, ils l'ont emporté par la marque de 31-26 contre les Giants. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? C'était une bonne performance en fin de match à part de Daniel Jones. 322 verges, 4 passes de toucher, aucune interception pour le carrière recrue de New York.
Ouais, on mettra pas d'interception à sa fiche, mais on va se rappeler de sa passe vers l'arrière qui a été récupérée par Devin Connard pour un toucher en début de match. Ça paraît pas dans les stats,
non,
là,
mais
c'est un jeu déterminant dans la rencontre quand tu regardes le score final. Moi, ce que je retiens, c'est Matt Stafford. Matt Stafford joue probablement de son meilleur football en carrière présentement.
342 verges, 3 passes de toucher, une interception.
Tu sais, ça va bien, là, cette équipe-là. Cette équipe-là est capable d'attaquer les zones profondes. On l'a vu avec Kenny Golladay. Danny Amendola, quand même, 8 réceptions. Donc, receveur de possession, c'est ce que tu veux, qu'il y ait beaucoup de réceptions dans un match. Marvin Hall avec une réception, mais c'est sur 49 verges pour un toucher. Tu sais, on est capable de bouger le ballon. Je trouve que Matt Stafford paraît bien. L'attaque au sol, encore une fois, pas très présente. Malheureusement, l'absence de Kerryon Johnson fait mal.
Mais ça, j'allais dire, c'est quoi vraiment la différence des Lions de cette année comparé aux Lions au cours des 5-6 dernières années? Mis à part Stafford qui joue mieux, comme ça mentionné, il a vraiment été solide cette année. Mais souviens-toi, lors des dernières années, on n'a pas d'attaque au sol. On n'a pas une défense solide. Puis là, c'est la même chose.
La même affaire.
Je veux dire, Daniel Jones s'est amusé aux dépens de cette unité défensive.
Oui, puis on est déjà on le sait, là, on commence à préparer déjà l'avenir là, parce qu'on s'est débarrassé de Quandre Diggs sur le marché joueur
par transaction.
On parlait d'Aris Lee, c'est peut-être un autre joueur qui serait sur le marché des transactions. Donc, on le sait, là, à 3-3-1, on parlait de la section avec les Vikings puis les Packers, c'est presque impossible. On a une progression cette année par rapport à l'année dernière. C'est une belle surprise, les Lions, cette saison. Donc, déjà, on commence à préparer l'avenir parce qu'on réalise qu'on a encore des faiblesses, comme tu les as énumérées. Donc, on se prépare déjà pour la suite. On le sait que on n'est pas si différent. On est amélioré, mais on n'est pas si différent. Puis il faut commencer à ajouter des morceaux si on veut être une différente équipe qui aspire aux grands honneurs.
Ouais, en passant, je ne sais pas si tu as vu la course de Saquon Barkley. Je ne sais pas si c'est une course ou bien une réception.
Ouais, qui s'est défaite après 6 gars.
Oui, oui, oui. Puis dont un qui est arrivé face à face, puis il a tassé une main ou à peu près. C'est vraiment incroyable.
Un homme.
Non. Il est tellement talentueux. Là. En tout cas, c'est une des rares raisons pour continuer de regarder des matchs des Giants.
Ouais.
Ça, puis regarder la progression de Daniel Jones également. Ben oui.
Ouais.
Parfait. Maintenant, les Buccaneers. Bon, ça, on en a parlé de cette rencontre. On est obligé d'en parler encore une fois. Oui, les Broncos de Denver, maintenant, ils rendaient visite aux Colts à Indianapolis. Les Colts qui l'ont emporté grâce à un placement en fin de match d'Adam Vinatieri. Je n'étais vraiment pas certain s'il allait réussir le placement parce que Vinatieri, plus tôt dans le match, il avait raté une tentative de placement. Il avait raté également un converti d'après touché. On sait qu'il ne connaît pas vraiment une bonne saison, mais encore une fois, le vétéran nous a démontré que lorsqu'on a besoin de lui dans les moments cruciaux, ben, il répond à l'appel. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là? Je sais qu'il y a Joe Flacco qui a critiqué le groupe d'entraîneurs après le match. Il dit, écoutez, là, on a une fiche de 2 victoires et 6 défaites. Je comprends pas pourquoi on joue de façon... On est conservateur en fin de match. On devrait prendre des chances. On devrait être plus agressif. Mais en même temps, c'est pas comme si Joe Flacco, il produisait, là, puis il va se permettre de critiquer.
Non, je comprends, puis c'est intéressant à ce propos-là, parce que tu dis, qui a le droit de critiquer? Est-ce que c'est seulement eux qui produisent, ou est-ce que tout le monde dans l'équipe? À quelque part, Joe Flacco, t'as-tu déjà entendu Joe Flacco dire quelque chose comme ça?
C'est une des rares fois.
Ben,
c'est une des rares fois qu'on entend parler.
C'est un gars, qui est professionnel, qui dit rien, qui dit les bonnes choses. Mais là, clairement frustré. Il est pas fou, Joe Flacco. Là. Il sait que sa saison n'est pas extraordinaire.
Ouais, il avait pas tort.
Mais,
justement,
il n'y a pas tort du tout. Pis c'est là où je me dis, ben, sais-tu quoi? Ils disent que tous les partisans, tous les médias, plusieurs joueurs se disent. Puis il dit tout haut parce qu'à un moment donné, t'es carrière, t'es leader, t'es vétéran, tu le sais que c'est la fin. Là. Joe Flacco, il sait là, qu'il ne signera pas un autre contrat de 4 ans avec les Broncos. Fait qu'il dit les vraies choses. Regarde, à un moment donné, là, on est en fin de match, on a la chance de. On est 3 et 5, puis au lieu d'essayer une passe un peu agressive, on va avec un petit jeu au sol, pépère, on donne le ballon, puis il marque, puis il gagne le match. Je le comprends d'être fâché, je le comprends de sortir ça. Bon, peut-être qu'on ne devrait pas, mais à quelque part, on peut excuser Joe Flacco de le faire une fois dans sa carrière, dans une situation où ça va pas bien. Puis pour les Colts, ben, on est chanceux. Là, parce qu'on l'a échappé belle face aux Broncos. C'était pas un de nos meilleurs matchs. Jacoby Brissett, c'était pas une de ses bonnes performances cette année après une superbe performance la semaine dernière. Puis on se retrouve avec un dossier de 5 victoires, 2 défaites. Donc on est toujours en bonne posture.
Oui, la défense des Broncos qui a bien joué. En passant, Joe Flacco.
Oui,
qui joue bien depuis environ un mois. En passant, Joe Flacco, bien, il ne jouera pas la semaine prochaine. Et il y a une blessure au cou.
Ouais, c'est le genre de blessure que tu peux pas diagnostiquer. Là, mais j'ai mal.
Non, c'est ça, exactement. Je sais pas s'il va être échangé avant la date limite des
Brent Allen, to start.
Oui, exactement, qui va être le carrière partant des Broncos. On sait qu'on a repêché Drew Lock lors du dernier repêchage, mais John Elway, en fait, il y a quelques semaines, on demandait pourquoi Drew Lock ne jouait pas, étant donné que la saison est déjà perdue à Denver. John Elway a dit tout simplement que Drew Lock n'était pas prêt encore afin d'être carrière partant. Alors, bonne chance du côté des Broncos. On sait qu'on a échangé Emmanuel Sanders la semaine dernière, alors ça va vraiment mal en pire.
Ben oui, ça n'ira pas en s'améliorant.
Non. Vraiment pas, on s'entend là-dessus. Maintenant, à Londres, les Rams recevaient, même si c'était à Londres, mais c'est eux qui recevaient les Bengals de Cincinnati. Ce que j'ai retenu de la rencontre, ça a été la performance de Cooper Kupp, 220 verges. Il était constamment tout seul au centre du terrain. C'est comme si c'est exactement le même jeu qu'on refaisait. Puis la défense des Bengals n'avait aucune solution contre le receveur des Rams de Los Angeles. Excellente performance de la part de Jared Goff, mais bon. C'est contre les Bengals, mais c'est ça qu'on doit faire lorsqu'on affronte les mauvaises équipes. Finalement, le jeu au sol a produit quelque peu du côté des Bengals après la performance ridicule de la semaine dernière pour Giovanni Bernard et Joe Mixon. Moi, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire à propos de ce match-là. Je sais pas pour toi.
Ben, j'ai rien à dire. Les Bengals sont vraiment mauvais, puis les équipes qu'ils affrontent généralement ont beaucoup de statistiques, puis c'est ce qui s'est produit.
Ils ont été
ici,
plus compétitifs hier quand même.
Ouais. Mais deux choses. Un, Cooper Kupp, pourquoi il n'a pas touché... Il y avait 220 verges, il restait 25 minutes au match.
Mm-hmm.
Pourquoi il n'y a pas eu d'autres verges après? Pourquoi il y a...
Écoute, je peux pas dire que j'ai regardé le match après.
Non, mais c'est pas intéressant. C'est moi non plus, j'ai pas vu celui-là parce que, écoute, il y en a tellement de matchs que tu en regardes comme tu
non,
peux.
Non,
là, mais
c'est ça.
J'ai pas regardé, mais je me demandais si tu avais la réponse parce que je sais pas pourquoi après ça on lui a plus donné le ballon. Puis
ben, peut-être que les Bengals se sont réveillés quand il s'est rendu à 220 verges.
Trois gars dessus.
Peut-être faudrait le couvrir. Peut-être c'est ça qui est arrivé. On a commencé à lui porter attention.
Mais finalement. L'autre nouvelle dans ce match-là, c'est Brandon Cooks, par exemple, qui a quitté le match en raison d'une commotion.
Oui.
Et pour lui, ça commence à être préoccupant parce que ça fait plusieurs dans sa carrière.
Écoute, il y en avait une il y a quelques semaines. Ça fait frappé solidement.
Puis il y en a une au Super Bowl, on se souvient. Ouais, donc là, ça fait plusieurs, là, puis ça commence à être inquiétant pour un joueur de football. J'espère qu'on met fin à sa saison, puis qu'on évalue tout ça pendant la saison morte, parce que la santé avant tout.
Oui, non, je suis bien d'accord avec toi. À la Nouvelle-Orléans, les Saints recevaient les Cardinals d'Arizona. C'était le retour au jeu de Drew Brees. Brees, on sait qu'il avait subi une blessure à un pouce. Sans Brees, ben on est demeuré invaincu du côté des Saints. 5 victoires, aucune défaite, grâce notamment aux performances du carrière Teddy Bridgewater. Là, on a vaincu les Cardinals. Bon, ça a été une victoire relativement facile, mais qu'est-ce que tu as retenu de la rencontre? J'imagine que ça doit être la performance de Brees à son retour au jeu, là, quand même.
Deux choses rapidement, Drew Brees, évidemment. Puis on l'a pas retenu non plus, on l'a pas ménagé. 43 passes dans le match, donc c'est pas comme si on a dit, ben regarde, puis on avait l'avance tôt, là, on aurait pu dire, on n'avait pas l'avance tôt, c'était 17-6 au troisième quart. Mais on aurait pu le ménager, on aurait pu courir un peu plus, puis on a décidé de passer le ballon 43 fois. C'est fait frapper, ça ne l'a pas dérangé.
Non, c'est ça. Puis en plus, les Saints sont congés cette semaine. Puis moi, je me disais, ben, pourquoi on n'attend pas la semaine de congé, c'est ça, pour après qu'on va revenir de la semaine de congé afin de renvoyer Drew Brees dans la mêlée. Mais il faut croire que le personnel médical a fait son travail du côté des Saints. C'est pas le personnel médical des Jets. et qu'on savait qu'est-ce qu'on faisait.
Des
Redskins, c'est ça. On savait qu'est-ce qu'on faisait. Il était effectivement prêt à revenir au jeu. Alors, c'était une excellente performance de sa part.
Mention honorable à la TV Murray.
Davis Murray, ben oui, également. On était privé d'Alvin Kamara. Et sans Kamara, ben Murray, lui, il continue de faire le travail pour le TV Murray. Ça a été 102 verges, oui, en 21 courses. Drew Brees, 373 verges, oui. 3 passes de toucher. Les Cardinals ont complété une transaction. Ils sont allés chercher Kenyon Drake des Dolphins de Miami. Parce que là, Chase Edmonds, qui faisait de l'excellent travail en relève à David Johnson, qui est blessé, ben lui aussi s'est blessé. Donc, on avait un besoin à la position de porteur de ballon. Alors, on vous rappelle, la date limite des transactions, ben c'est mardi. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de mouvements de personnel à travers la NFL.
Puis juste pour ajouter, le TVS Murray, 9 réceptions pour 55 verges et un touché. Donc, également, ajoute cette dimension-là. Kamara, c'est probablement une des meilleures doubles menaces dans la NFL. Puis, il le remplace. C'est comme si on gardait le cahier de jeu même avec lui, ce qui est quand même impressionnant.
Oui, non, c'est ça. Moi, Murray m'impressionne. On a toujours su que c'est un bon porteur de ballon, mais avec les Vikings, ça n'a pas super bien été. Là, on avait perdu Mark Ingram, puis il y a le marché des joueurs autonomes. On a amené le Tavis Murray.
Belle mise sous contrat pendant la saison.
Oui, vraiment, absolument. Les Jets de New York, eux, ils visitaient les Jaguars à Jacksonville. Ça a été une victoire des Jaguars par la marque de 29-15. Du côté de Sam Darnold, ben écoute, c'était la suite du match de lundi soir contre les Patriots. Il avait été victime de 4 revirements contre les Patriots, victime de 3 revirements. Il a été victime de 3 interceptions contre les Jaguars de Jacksonville, victime de sac du corps. À l'opposé, Gardner Minshew, lui, continue son excellente saison recrue. 3 passes de toucher, est en mesure d'acheter du temps, prendre de bonnes décisions, protège bien le ballon. Et puis, avec Minshew au poste de quart, je ne sais pas si vous remarquez, mais Leonard Fournette s'est remis à produire. Une des raisons qu'on dit qu'il s'est remis à produire, c'est que là, maintenant, on utilise moins les formations parapluie. Donc, on revient avec des formations en I, avec un centre arrière, des formations dans lesquelles Fournette est confortable, donc plus traditionnel. Puis c'est là qu'il est à son mieux. Fait que je pose la question. Puis tu dois me voir venir.
Ben oui.
Nick Foles est en santé, du moins il s'approche d'un retour au jeu.
On parle de 2 à 3 semaines encore.
Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement, je garde Minshew dans la mêlée.
Oui, moi aussi. Moi, je pense que c'est ça qui va se produire. Bien, de toute façon, généralement, ce genre de choses-là, là, on va voir dans 3 semaines les performances. Il y a encore 2 semaines Gardner Minshew pour jouer.
C'est un peu comme Carl Allen en Caroline.
C'est
exactement
ce que j'allais dire. Des fois, ce genre d'affaires-là se décide seul. Carl Allen, ça s'est décidé seul, malheureusement, pour lui. Mais Gardner Minshew, ça pourrait se décider seul. S'il colle les bonnes performances encore, il va rester. Surtout si les Jags sont toujours en vie, ils sont 4-4. S'ils sont 6-4 au retour de Nick Foles, tu ne rends pas Nick Foles avec 6 matchs à jouer à la saison si Gardner Minshew fait le travail. Je garde sur le terrain.
Ah non, puis de toute façon, c'est une bonne chose d'avoir le vétéran sur le banc. Si jamais la recrue commence à piquer du nez en deuxième moitié de saison, tu sais, là, ta première année dans les rangs professionnels, là, le calendrier est rigoureux, c'est long, tu joues beaucoup plus de matchs qu'au football universitaire. Alors pourquoi pas garder Nick Foles sur le banc, puis si Minshew, ça va pas bien, t'envoies Nick Foles en milieu. De toute façon, Nick Foles a démontré par le passé qu'il est un excellent joueur d'équipe. Je crois pas que ça va être le genre de joueur qui va se plaindre si on garde Minshew dans la mêlée. Alors, moi, personnellement, je continuerai parce que Minshew, on dirait qu'on a trouvé un carrière. Puis je parle pas pour cette saison, mais peut-être pour les 10 prochaines années
puis
en raison de ses performances.
Puis si tu l'as joué encore, ben, tu as encore une meilleure évaluation pour la suite. Rappelons que Nick Foles a signé un contrat de 88 millions pour 4 ans, dont 45 millions garantis. Mm. Quand tu regardes ça, tu te dis...
Des fois, l'argent parle.
Ça fait deux mauvais contrats de 80 millions là, que les Jags accordent à des carrières. Ben, Blake Bortles, Nick Foles...
Ben, c'est là, écoute, c'est pas aussi fait que Blake Bortles. C'est pas en raison des performances comme Blake Bortles. Il s'est blessé. C'est pas de sa faute. C'est blessé
non, non,
du premier match de la saison.
Mais tu sais, quand tu regardes ça au final, peut-être que Nick Foles aurait été super bon, mais ils ont trouvé Gardner Minshew. Puis pour ceux qui avaient...
Mais l'important, au bout du compte, puis c'est vrai, là, regarde, c'est vraiment une grosse somme d'argent là, pour un joueur que peut-être qu'il retrouvera pas son poste de carrière partant. Mais dans tout ça, c'est deux choses. C'est de trouver un carrière partant, peu importe la façon dont tu fais. Je me souviens, souviens-toi, lorsque Russell Wilson est devenu carrière partant des Seahawks de Seattle, du côté des Seahawks, on avait mis sous contrat l'ancien carrière réservé d'Aaron Rodgers avec les Packers,
Matt Flynn.
Via le marché des joueurs autonomes, puis durant quand l'entraînement, on s'est rendu compte, hey, Russell Wilson, là, il a la chance d'être spécial, il est meilleur que Flynn. On n'y a pas pensé à deux fois, puis on n'a jamais regardé en arrière. Ça ferait 10 ans de ça. Wilson est toujours le carrière partant des Seahawks. C'est la même situation. Du moins, si Minshew continue de performer de la sorte, tu ne te casses pas la tête. Puis on parle même peut-être d'échanger Foles demain, avant la date limite des transactions.
Oui.
Il y a des rumeurs qui circulent. Une équipe comme Chicago, pourquoi pas. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Si on va voir le guts, finalement, si tu me permets l'expression, de compléter cette transaction du côté des Jaguars. Bon, maintenant, on en parlait des Panthers à Caroline. On a mentionné le nom de Carl Allen. On a mangé une claque. OK? Puis, je suis content, j'en ai pas parlé en ondes, mais lorsque j'étais à l'entraînement des Alouettes avec d'autres collègues journalistes, je me dis, je pense que les Niners vont perdre cette semaine, tout simplement parce qu'ils sont dus. Ils vont pas finir 16-0, mais je l'ai pas dit publiquement. J'ai juste dit à des collègues, du moins, je l'ai pas dit en ondes, je veux dire, 51-13, victoire des Niners. Ils ont complètement écrasé les Panthers qui arrivaient pourtant d'une semaine de congé. Mais écoute, la ligne défensive, encore une fois, des Niners, l'attaque au sol. Carl Allen a été victime de ses trois premières interceptions en carrière. Hein. Il n'avait jamais été victime d'interceptions. Là, trois. Alors, là, ça va être plus facile peut-être de réintégrer Cam Newton au sein de la formation partante de ce côté des Panthers. Mais si tu veux bien, j'aimerais qu'on s'attarde aux 49ers de San Francisco qui ont maintenant une fiche de 7 victoires. Aucune défaite. On en a parlé en ondes lorsqu'on avait présenté un match des Niners. Tous les anciens choix de première ronde qu'on a dans le front, en particulier au niveau de la ligne défensive. Mais Nick Bosa, encore une fois hier, 3 sacs, une interception là, qui a été incroyable. Je ne sais pas si tu as vu même les verges après la réception. Il avait l'air de porteur de ballon.
Il saute au plus haut point, crache le ballon, se débarrasse du carrière, puis il court, puis il a l'air de... Je veux dire un athlète, parce que c'est clairement un athlète, mais il a effectivement l'air d'un porteur de ballon. C'est hallucinant.
Oui, il est allé d'une fin de changement de direction. Écoute, en tout cas, il a mon vote. Si j'avais un vote là, pour la recrue par excellence en défense, je pense que tout le monde voterait pour lui. Là.
Mais c'est pas peut-être le meilleur joueur défensif tout court?
Laisse-moi y penser. Meilleur joueur défensif tout court de la NFL, je sais pas. J'essaie de penser quel autre joueur, mon Dieu. C'est une bonne question.
T'as pas fait tes votes là, à Blitz ce soir?
J'essaie de penser à qui j'ai mis. Je suis pas capable de m'en souvenir. Je regarde mes courriels. Voir mon courriel à qui j'ai mis comme joueur défensif. Je sais que j'ai donné mon vote à Bosa comme recrue.
Joueur défensif, t'as mis Devin McCourty.
Oui. Ben, je suis allé, écoute. Okay. Ouais, je suis allé avec Devin McCourty. Ben, okay. Il mène la NFL pour les interceptions. Mais c'est un peu un prix, si tu veux, pour l'ensemble de la défense des Patriots. Ouais, c'est ça, parce que, écoute, historiquement, la défense des Patriots, présentement, c'est une des meilleures de l'histoire de la NFL. Donc, c'est un peu, là, afin de représenter la défense des Patriots que j'ai donné mon vote à Devin McCourty. Maintenant, tu connais mes arguments pour le débat
ouais,
ce soir.
Ouais, c'est ça,
tu vas pouvoir
t'apprendre avec ça.
Me contrer mes arguments.
Mais tu sais, je regarde les. Ouais, mais moi, parce que je regarde un peu mon raisonnement pour Nick Bosa comme joueur défensif de l'année, c'est un peu ton raisonnement pour Devin McCourty. C'est comme le joueur par excellence, il faut qu'il vienne d'une bonne équipe qui produit. Ouais. Tu ne donnes pas ça à un gars dans une mauvaise équipe qui a des grosses stats.
Ben ça, j'ai regardé Shaquille Barrett, on
Shaquille
a parlé
Barrett,
avec Anthony,
mais... Tu
ne
peux pas donner ça à Shaquille Barrett,
les
parce qu'il joue pour les
Bucks.
Exact. Ouais. Tu donnes ça une bonne équipe, puis les Niners gagnent en raison de leur défense. Mais pour parler des Niners, ce que je disais, mon commentaire va être court, mais il va être celui-ci. En attaque, on est créatif plus que plein d'autres équipes. Si vous regardez le match, je suppose qu'elle est un grand connaisseur de football pour comprendre que c'est diversifié puis c'est créatif. Nombre de formations, puis de blocs, puis de toutes sortes de courses. Kyle Shanahan fait très bien ça, puis on continue à avoir beaucoup de verges au sol. Donc, on est très productif au sol. Tevin Coleman et tous les autres.
Ouais, Coleman, 4 touchés hier. Wow.
Puis Jimmy Garoppolo, on ne demande pas trop. 22 passes hier.
Je vais te laisser venir ton point, mais c'est mon point d'interrogation. Mais vas-y,
ben, c'est le point d'interrogation de l'équipe, parce qu'après ça, défensivement, tu n'en as pas de point d'interrogation. Défensivement, on est très, très, très solide.
Tellement solide avec la ligne défensive.
Avec la ligne défensive qu'on a là, on est vraiment bon. Donc, on a une formule qui fonctionne, mais tu as raison, point d'interrogation demande Jimmy Garoppolo.
Parce que l'attaque au sol fonctionne tellement bien, il n'a pas à faire grand-chose, Jimmy Garoppolo. Depuis le début de la saison, on prend l'avance.
Pourquoi lui demander d'en faire?
Non, mais c'est correct, c'est ça la formule. Tu sais, je ne veux rien lui enlever. L'attaque au sol fonctionne, on prend des grosses avances comme on l'a fait contre les Browns dans le match du lundi soir, on l'a fait contre les Panthers hier, puis c'est avec l'attaque au sol là, qu'on prend des grosses avances, après ça on continue de courir avec le ballon. Mais je me dis qu'il va y avoir un match, on va affronter à un moment donné une bonne défense qui va être capable de limiter les dégâts contre le jeu au sol. Éventuellement, Garoppolo va devoir faire des jeux avec son bras. Puis on ne l'a pas vu faire ça vraiment depuis le début de la saison. Du moins, il n'a pas eu à le faire. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un point d'interrogation. Il n'a pas eu à le faire. Et là, j'ai vu être victime de sac, à certains moments, être très hésitant. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un point d'interrogation contre Jimmy Garoppolo, je veux dire.
Fait penser un peu à Jared Goff, non? Genre de, tu sais, c'est pas un grand corps, mais c'est un corps qui comprend, qui va faire les choses qu'il devrait faire, va faire un mauvais jeu ici et là.
Mais même Goff va te sortir des matchs de 300 verges. Ouais. Il l'a fait hier.
Garoppolo a fait ça une fois depuis le début de l'année.
Non, c'est ça. Ouais. Tu regardes ses statistiques, mais encore une fois, tu peux pas blâmer parce que le jeu au sol fonctionne tellement. On gagne 200 verges au sol pratiquement toutes les semaines.
9 touchés, 7 interceptions, ça c'est un très mauvais ratio. Mais c'est pas pour rien qu'on est allé chercher Emmanuel Sanders. Mm-hmm. On veut lui donner des outils, on veut l'aider.
Il y a ça aussi, ouais. Sanders qui a marqué un toucher à son premier match.
T'as George Kittle qui est un des meilleurs alliés rapprochés de la NFL. Donc on essaie de trouver des solutions pour relancer cette attaque aérienne, mais pour l'instant on n'a pas besoin puis ça fonctionne. Donc,
quand t'arrives
en fin de saison là. Tu veux-tu avoir un meilleur jeu au sol puis une bonne défense ou tu vas avoir un carrière qui joue bien?
Mais c'est un bon point. La transaction de Emmanuel Sanders, c'est ça. On n'était pas satisfait de la performance de nos receveurs. C'est pour ça qu'on est allé chercher le vétéran. Puis tout de suite, là, il a eu un impact avec un touché. Bon, en tout cas, l'excellent début de saison des Niners se poursuit. Les Browns visitaient les Patriots. Man, le match s'est déroulé pas mal comme on l'anticipait. Ça a été une victoire de la Nouvelle-Angleterre face aux Browns de Cleveland. Voilà. Et écoute, qu'est-ce que j'ai retenu de ce match-là? Bon, les deux échappées de Nick Chubb. Nick Chubb, il a été productif au sol. On le voit, son beau porteur de ballon. Tu peux juste pas échapper le ballon comme ça. Et 13 pénalités du côté des Browns. Ça s'améliore pas. On devient pas plus discipliné qu'on ne l'était lors de la première semaine d'activité. On disait, bon, OK, c'est le début de la saison. On a été victime de plusieurs pénalités. Mais là, 13 pénalités contre les Patriots. Marque finale 27-13 en faveur de la Nouvelle-Angleterre. Moi, je pense que Freddie Kitchen, c'est une question de temps. Là. Tu te souviens, la dernière fois que tu étais au podcast, c'était cet été. On était avec Meeker. On en parlait. Moi, j'avais dit, les Browns, je ne veux rien savoir des Browns. Je ne crois pas. Je n'embarque pas sur le bandwagon. Freddie Kitchen a tout approuvé. Puis là, on est quoi? 2-6 là, maintenant là, du côté des Browns? Là? Peu importe. C'est une autre saison qui semble être perdue là, à Cleveland.
Moi, je pense que ça va être sa seule et unique saison à la barre des Browns, malheureusement. Pas parce que c'est une organisation qui est dysfonctionnelle.
2-5 Cleveland, oui.
Beaucoup, beaucoup de critiques à l'endroit de Freddie Kitchens. Et on va vouloir, du côté de John Dorsey, faire porter le blâme à quelqu'un, puis pas aux joueurs.
C'est l'entraîneur-chef
qui va écoper.
C'est sûr, ça ne sera pas les joueurs, c'est lui qui a assemblé l'équipe.
Puis c'était intéressant ce que Pierre soulignait hier dans le match entre les Pats et les Browns. Les Pats ont 17 entraîneurs. Les Browns, 27 entraîneurs. Tu sais, t'as 27 coachs. À un moment donné, le message se perd. Je sais pas si t'en as trop, c'est dilué. C'est beaucoup.
C'est ridicule, 27.
C'est comme trop. Fait que t'as-tu besoin vraiment de tous ces gens-là autour? Il y a peut-être la confusion, je sais pas, mais clairement, Freddie Kitchens a l'air dépassé par les événements. Ça fonctionne pas si bien avec Baker Mayfield. Puis les Pats sont juste simplement une meilleure équipe. Puis encore une fois, la défense qui a inscrit des points pour les Pats. Tôt dans le match, dans le Hightower, qui a inscrit un toucher défensif. Ils ont marqué plus de touchés qu'ils en ont accordé cette saison.
Ça, c'est vraiment incroyable. Comme je le disais tout à l'heure, statistiquement, c'est une des meilleures défenses de l'histoire de la NFL jusqu'à présent, en première moitié de saison. Bon, on va y aller rapidement parce qu'on s'approche de la marque d'une heure pour le podcast. Il nous reste deux rencontres. Les Raiders d'Oakland se sont inclinés contre les Texans à Houston. Ça a été une victoire de Houston par la marque de 27-24. Malheureusement, bon, J.J. Watt, sa saison est terminée. Il a subi une blessure au pectoraux, déchirure aux muscles pectoraux. C'est la troisième fois en quatre ans qu'il n'est pas en mesure de terminer une saison. Là, c'est ça le football, là, éventuellement. Le temps te rattrape, ton corps commence à te lâcher, puis c'est ce qu'on voit du côté de J.J. Watt. C'est vraiment malheureux, parce que tu sais, là, c'est un joueur, lorsqu'il était à son sommet, On mentionnait son nom en compagnie là, de Reggie White, de Bruce Smith, des grands joueurs de ligne défensive de l'histoire de la NFL, mais clairement, il n'est plus le même joueur. Il est toujours un bon joueur, mais il n'est plus aussi dominant. Puis là, ça ne va pas l'aider avec une autre blessure de plus.
Il connaissait une excellente saison. Malheureusement, pour lui, c'est terminé. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plate. Si les Texans veulent espérer aller loin, ils ont besoin de tous leurs effectifs.
Eux autres, sur toute la défense... vraiment pas solide.
Non.
Hier encore...
C'est une équipe basée sur l'attaque maintenant, là, les Texans.
Oui, c'est ça. Puis là, on a fait l'acquisition de Garyon Conley des Raiders. Puis là, Conley affrontait son ancienne équipe. T'as vu qu'est-ce qu'on a fait? Ben ouais, tout de suite, on laisse cibler du côté des Raiders. On va vous montrer pourquoi on voulait échanger. Il s'est fait brûler par Terrell Williams pour un toucher. Puis, hey, je sais pas si t'as vu le tour de magie de Sean Watson.
Ouais, ben oui.
Il a reçu un coup de pied en plein visage.
Son œil tout enflé, tout rouge, plein de sang. Puis il réussit à compléter une passe de toucher alors qu'on pensait que c'était un sac de corps. Mais moi, c'est ça, je retiens. Encore une performance exceptionnelle de Deshaun Watson.
Ouais, non, vraiment, là, ça a vraiment été incroyable. Puis du côté des Raiders, écoute, on a perdu par seulement 3 points. Les Raiders sont une équipe améliorée. Ouais. Mais durant la saison morte, un point qu'on doit améliorer, c'est au niveau des chasseurs de corps. Bon, OK, on n'a pas de pass rush, comme on dit, en langage de football. Puis ça, c'est malheureux, parce qu'un de nos choix premier rond, c'était un... Exactement, puis on ne le voit pas. On le voit pas durant les matchs. La dernière rencontre qui était présentée dimanche soir mettait aux prises les Packers de Green Bay aux Chiefs à Kansas City. Ça a été une victoire de Green Bay par la marque de 31 à 24. Écoute, un des points tournants de la rencontre, bon, c'est l'égalité 17 à 17. Le Sean McCoy a été victime d'un échappé. Les Packers ont pris possession du ballon. Passe de toucher d'Aaron Rodgers à Jamal Williams. Green Bay ensuite eu l'avance et puis on ne l'a plus perdu. Mais on en avait parlé lundi à Blitz. Moi, j'avais dit que Matt Moore, peu importe, il allait être productif, il allait bien jouer, il n'allait pas être la raison pour laquelle les Chiefs allaient perdre durant l'absence de Pat Mahomes. Puis encore une fois, il a été solide. Oh oui. Andy Reid qui continue de bien préparer ses carrières réservistes, mais ça n'a pas été assez pour l'emporter.
Non, on ne peut pas mettre la défaite sur Matt Moore. Aaron Rodgers joue à un niveau supérieur présentement. Ça fait 3-4 matchs là, qu'il joue vraiment de son meilleur football. On sent cette attaque-là qui prend son rythme. Il fait produire des gars comme Jake Kumerow, comme Alan Lazard, qui sortent de nulle part, tous des gars non repêchés, des agents libres, puis il est fait produire. Matt LaFleur a réussi à trouver une façon d'utiliser Aaron Jones comme il utilisait Todd Gurley avec les Rams, donc il sort comme receveur.
Aaron Jones déséquilibre. Il amène des déséquilibres.
Ben, c'est ça, on
Les secondeurs ne peuvent juste pas courir avec.
Puis à chaque fois qu'on voyait que c'était du homme-à-homme, on le sortait comme receveur éloigné. Un secondaire qui est là, ben, oublie ça.
On se casse pas la
toute
tête.
La game, bon, il y a quoi, 159 verges juste sur réception. T'sais, c'est une performance exceptionnelle. Puis je veux juste revenir à McCoy parce que c'est un peu un running gag entre moi puis Bruno.
Ouais,
parce que
je sais, t'en parles tout le temps.
Je dis que McCoy, c'est une mauvaise personne parce qu'il tient pas bien le ballon. Là. Mais je trouve que c'est tellement irresponsable. Je ne conçois pas. Je ne suis pas capable de concevoir qu'un joueur de football tient le ballon comme ça. Ça, là, c'est le ballon.
Il
tient loin de son corps. Puis pas juste quand il est à champ ouvert. Pas juste quand il est à champ ouvert avec personne près de lui. Il était dans le trafic. Dans le milieu de paquet de joueurs défensifs, il tient le ballon, il a à peu près un pied et demi de son corps, puis il court, puis... Mais c'est sûr, tu vas le perdre, Nono. Tiens-le, le ballon. Il perd le ballon, puis tu l'as dit, c'est le point tournant du match.
Ouais, non, parce que c'est l'égalité 17 à 17 à ce moment-là, puis McCoy ne va pas changer à ce titre de sa carrière. Là.
Ben, moi, je ne le mets pas sur le terrain. Qui était sur le terrain les deux séquences suivantes? Damien Williams.
Ouais.
Parce que tu peux pas te permettre ça dans un match serré. Pis,
ouais.
Tu l'as dit, Matt Moore, tu ne gagneras pas des matchs si ce n'est pas parfait, puis c'est McCoy qui est venu bousiller tout ça.
Ouais. En tout cas, on va voir si Pat Mahomes va revenir au jeu dès la semaine prochaine, parce qu'il y avait déjà des rumeurs sur les toits qui circulaient qu'il pourrait effectuer un retour au jeu contre les Packers. Bon, on a pris une sage décision. Oui, non, absolument. Puis il y a toujours des chances qu'il pourrait encore une fois disloquer à nouveau la rotule de son genou. Alors, on est allé d'une sage décision, mais les Packers de Green Bay, 7-1. 7-1, souviens-toi, au début de la saison, dis, oh mon Dieu, ça ne marchera pas entre Matt LaFleur et Aaron Rodgers. On ne s'entend pas bien.
Ça marche.
Rodgers ne pourra pas s'habituer à un nouveau système de jeu, à se satisfaire sa carrière. Parce que Aaron Rodgers est parmi les candidats au titre de joueur par excellence à la mi-saison. Ben voilà, on a fait le tour. J'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. Mathieu, merci d'être venu en studio afin de faire le tour là, de la NFL, des Alouettes et de la Ligue canadienne de football. Alors, je vous invite à nous écouter la semaine prochaine et on se reparle dans 7 jours.